Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Paul Saint-Fort. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de la presse et de
l'entrepreneuriat féminin.
Voilà, pardon, j'ai du mal à prononcer. Nous recevons Françoise Rosamond, journaliste et directrice de rédaction d'un journal, je pense, c'est ça ?
Inter-entreprise.
Voilà, pardon. Nous allons l'interviewer et j'espère que cette émission vous plaira.
Alors, je veux préciser exactement qui je suis. Je suis directrice des éditions d'une marque qui s'appelle Inter-entreprise, que j'ai lancée il y a 20 ans. Je suis originaire de la Martinique, je suis née à Sainte-Marie. Et cette marque se décline en trois produits. Un magazine papier, Inter-entreprise, je vous ai ramené quelques exemplaires. Une lettre confidentielle uniquement sur Internet, donc à travers notre site qu'on a depuis 2005, qui s'appelle interentreprise.com. Donc sur ce site, où nous envoyons de l'information économique tous les jours à plus de 30 000 personnes sur les Antilles-Guyane, nous avons une lettre confidentielle et puis nous avons une opération emblématique que nous faisons depuis une dizaine d'années qui s'appelle le prix Inter-entreprise du manager Antilles-Guyane. Donc cette entreprise, Editing, c'est le nom de l'entreprise, a une marque qui s'appelle Inter-entreprise et cette marque se décline en trois produits.
Et qu'est-ce exactement qu'une opération dont vous avez parlé ? Qu'est-ce que c'est exactement ?
Ben en fait, c'est un concours qu'on organise depuis une dizaine d'années qui récompense des chefs d'entreprise des trois territoires, de Martinique ou de Guyane. Il s'appelle le prix Inter-entreprise du manager Antilles-Guyane. Donc c'est pour récompenser des managers, des entrepreneurs qui sont à la fois efficaces en termes de gestion de leur entreprise, qui sont à la fois efficaces et puis faisant les choses bien en matière sociale et qui préserve aussi l'environnement parce que pour nous, les trois sont nécessaires.
D'accord, merci.
Alors la question...
Quelles études mènent à ce métier ?
Alors j'ai fait un peu des chemins de traverse parce que pendant longtemps, je ne savais pas ce que je voulais faire exactement. Donc j'ai fait un bac de secrétaire, après j'ai fait un BTS commercial et c'est en faisant ce BTS que j'ai fait un stage dans un journal. Et là, je me suis dit d'abord au service commercial, mais rapidement, on m'a envoyé sur le terrain faire des reportages, enfin en tout cas assister à des conférences de presse. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est ça que je veux faire, j'ai trouvé mon métier. Et là, je me suis formée, j'ai tout arrêté. Et j'ai fait l'école de journalisme qui est du Louvre, de la rue du Louvre à Paris, qui est l'une des meilleures écoles encore aujourd'hui. Et j'ai fait le cycle en formation professionnelle continue. Et au bout de 3 ans, je me suis lancée complètement dans ce métier-là. Donc c'est possible, même si on part au début, on ne sait pas trop.
Et quel est votre domaine journalistique ?
Alors je suis passionnée par l'économie. Alors c'est quoi exactement ? J'aime de comprendre et d'imaginer, d'expliquer après comment un produit, c'est-à-dire qu'un groupe d'hommes et de femmes décide de trouver, par exemple, les casques que nous portons, les fils que nous portons, tout ça, ce sont des hommes et des femmes qui le font. Et puis ils se mettent ensemble pour produire ces choses-là, les habits que vous portez, et puis après ils le mettent sur le marché. Et comment arriver à ce que ces produits imaginés par des hommes et des femmes deviennent des choses achetées et que les gens gagnent de l'argent et vivent avec ça. Et ça, c'est de l'économie. Et je considère que c'est le cœur de la vie et de l'organisation, parce que c'est à travers ces échanges qui peuvent être plus ou moins cher, hein, c'est-à-dire on peut très bien acheter un t-shirt à 1 euro et puis un autre à 500 euros, mais en tout cas c'est le même principe, des hommes et des femmes créent de la valeur. Et moi je trouve ça formidable, c'est-à-dire de rien, on arrive à créer des trucs.
Et pour vous, est-ce que le concept de la mode, c'est-à-dire qu'il y a des tendances par-ci, par-là, est-ce que ça fait aussi partie d'une sorte d'économie ou de principe d'économie ?
Alors là, c'est le marketing qui se met face aux besoins, c'est-à-dire le besoin essentiel, c'est s'habiller. Mais après, on vous fait croire que tous les 6 mois, tous les 3 mois, il faut changer. Donc ça, c'est du marketing. Et effectivement, on vous fait croire qu'il vaut mieux avoir cette marque-là que simplement un t-shirt. Donc après... ça crée de l'économie, mais autant, c'est-à-dire que pour moi, il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, à un moment, avant la guerre, etc., il y avait très peu de différences. Donc tout le monde s'habillait pareil, c'était plutôt moche, etc. Et puis il y a eu le développement de la consommation, parce qu'il y a des gens qui se sont mis à créer. Et donc effectivement, le marketing est venu les différencier. Mais Aujourd'hui, on est un peu tombé dans le travers inverse, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps changer, un portable ne peut pas durer plus de 2 mois, etc. Et ça, c'est, entre guillemets, de la bêtise, parce que la fonction principale, c'est téléphoner, par exemple, se chausser, on n'a pas besoin d'avoir 3 portables, et on n'a pas besoin d'avoir 10 paires de chaussures. Donc après, et c'est en fait, la consommation qui est un concept qui est un peu décrié, moi je trouve que si on le renverse, c'est-à-dire que ça oblige à chacun à savoir ce qu'il veut dans sa vie. Est-ce qu'il veut être submergé d'objets ou est-ce qu'il veut faire des choix pertinents par rapport à ce qu'il projette dans sa vie? Et moi, je trouve que ben, si on y réfléchit bien, c'est aussi une forme de liberté. Je peux avoir le choix d'avoir 10 portables, mais je me sais que je vais paupériser sur autre chose, je suis lié aux objets, ou je peux faire le choix de choisir ce que je veux, parce que le choix est là. Et d'une manière générale, il vaut mieux avoir le choix que de ne pas avoir.
D'accord, merci.
Et le fait d'aimer l'économie, vous, c'est depuis que vous êtes toute petite ou c'est vraiment à partir du moment où vous avez voulu être journaliste ?
D'une manière générale, j'ai toujours aimé expliquer. Et au début, je suis d'une famille modeste, et entourée de garçons, nous sommes 8, et nous sommes que 2 filles. Et on nous disait toujours, enfin voilà, que l'économie est difficile, etc. Mais j'ai eu cette intuition que c'est là qu'est la vraie connaissance et le vrai pouvoir, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on comprend comment sont les choses, c'est-à-dire, c'est pas par hasard que, par exemple, tu portes la chaîne que tu as autour du cou. Ça dénote quelque chose. Donc après, pourquoi c'est de démonter et arriver à la source et puis pouvoir l'expliquer, de se dire oui, je confirme mon choix de porter ça, ou bien je décide que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et la compréhension, c'est pour moi déterminant pour être libre. Donc très tôt, très jeune, je n'avais pas peut-être l'économie, mais en fait cette envie de pouvoir vivre une vie telle que, en la comprenant et après en pouvant l'agir par moi-même. Et ça, c'est très très jeune parce que j'ai tenu des carnets à vos âges, des choses que j'écrivais, etc. Et c'est vrai que ce genre de pensée, à 8, 9, 10 ans, je l'avais déjà là. C'est vrai que j'ai eu des parents, même s'ils étaient de petites conditions, mais qui avaient toujours voulu nous mettre des livres, etc. C'est-à-dire que ce contexte-là aussi favorisait cet aspect de se dire « la vie n'est pas telle qu'on vous la montre ». Elle est aussi telle que vous pouvez décider qu'elle l'est. Et pour arriver à ça, eh bien, il faut la comprendre, pour pouvoir démonter les processus et construire les nôtres. C'est pour ça que je suis journaliste, en fait.
Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir journaliste ?
En fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, je ne connaissais pas ce métier, en fait. Quand j'étais... parce que là aussi... mon père était boucher et ma mère était femme au foyer. Donc, ils nous ont mis dans des conditions d'apprentissage, mais on était très loin de Sainte-Marie, quoi. Donc, on était très loin des médias, etc. Donc, moi, j'avais cette intuition que j'aime expliquer. Au début, je pensais être avocate ou quelque chose comme ça. Et c'est parce que j'ai eu la proximité de gens dans ce métier-là que, du coup, je me suis dit, ah, ben, c'est ça que je veux faire. Mais pendant longtemps, je n'ai pas su. Mais à partir du moment où j'ai croisé, donc je devais avoir 21 ans, à partir du moment où j'ai croisé et que j'ai su que c'était ce métier-là, eh ben, j'ai tout arrêté et je me suis dit, je vais me former, parce qu'une des choses aussi qui me caractérise, je veux être la meilleure. Mais pas par rapport aux autres, par rapport à ce que moi, je considère que je peux faire de mieux. C'est-à-dire que je ne me mets pas en compétition avec les autres. Moi, je me considère que j'ai déjà suffisamment de choses à développer par moi-même et je n'ai pas besoin forcément de la compétition des autres. Mais je trouve qu'on a des capacités qu'on n'imagine pas et qu'il faut les pousser le plus loin qu'on peut. Et ça, c'est à travers des lectures, à travers des questionnements, à travers... quand on a un rêve, on ne le lâche pas, quoi. Et ça, c'est une caractéristique que tout le monde a, vous aussi.
Et pourquoi c'est si important pour le journaliste de transmettre des informations aux auditeurs ou bien aux téléspectateurs ?
Parce que, et d'autant ta question est pertinente, d'autant maintenant. Aujourd'hui, avec le développement d'Internet, avec le développement de toutes sortes d'outils de communication, il y a beaucoup de choses qui arrivent à la connaissance des gens. Et ça, pareil, je considère que c'est une excellente chose. Parce qu'à un moment, l'information était captée par un petit nombre qui avait les moyens d'acheter des journaux, etc. Aujourd'hui, cette information est nettement plus accessible, mais elle n'est pas forcément mieux expliquée et mise en perspective pour pouvoir permettre aux gens de prendre des bonnes décisions. Par exemple, je vais prendre exprès quelque chose que vous connaissez, du Coca-Cola. Donc, tout le monde boit du Coca-Cola, tout le monde boit des produits sucrés, mais à un moment, il faut comprendre que l'excès de ça, ça entraîne des problèmes de santé et ça entraîne après que vous soyez en difficulté pour votre vie. Et si ce ne sont pas des gens qui ne sont pas intéressés directement à la production de Coca-Cola, vous ne le comprendriez jamais, sauf au moment où vous serez malade. Et les journalistes sont là, en termes d'alerte, quand ils font vraiment le boulot, pour pouvoir expliquer tout ça, pour pouvoir vous dire, oui, ça existe, mais attention, il y a des choses qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour le plus grand nombre.
Madame Riflam nous a appris que les journalistes, c'est en quelque sorte ce qui préservait un pays de la dictature. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle et pourquoi ?
Je suis complètement d'accord avec elle parce que il est facile quand des gens ont le pouvoir, s'ils ne l'ont pas réfléchi, c'est-à-dire le monde a été bâti de telle manière que depuis très longtemps, que c'est un petit nombre de personnes qui prennent des décisions qui concernent le plus grand nombre. Et ce petit nombre, malheureusement, parce qu'il a des pensées plutôt étroites, des pensées de dire que certains de couleur, ou les femmes aussi, ou certaines minorités, etc., n'ont pas droit à avoir autant qu'eux, eh bien, ils prennent des décisions qui impactent la vie du plus grand nombre. Et malheureusement, c'est ce à quoi on assiste encore plus aujourd'hui. Vous l'avez entendu dans l'actualité, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par nos dirigeants et qu'on se dit, mais tiens, pourquoi ils pensent à ça ? Parce que ça, au lieu d'imaginer le bien-être, ils sont plutôt en train d'aller vers des solutions qui ne sont qu'économiques, par exemple. Et c'est quelqu'un qui parle d'économie qui parle de ça. Par exemple, vous avez entendu parler des OGM, des organismes génétiquement modifiés, dont on a fait la preuve que ça peut être nocif pour la santé de l'homme. Eh bien, parce qu'il y a des grosses entreprises qui font le beurre avec ça, qui gagnent de l'argent avec ça, et qui sont puissants en termes de lobbying, c'est-à-dire d'influencer les politiques qui prennent des lois, ils peuvent faire passer des textes qui permettent que, même si vous n'êtes pas d'accord, qu'on retrouve des OGM dans votre assiette. Les journalistes sont là pour dire, attention, là, il y a une interdiction ou là, il y a une fraude qui est en train de se passer et qui n'est pas normale. Et le dire suffisamment haut et fort de manière à ce qu'il y ait des conséquences et des actions des hommes politiques que nous élisons avec nos votes. Et c'est en ça que le journaliste, s'il fait correctement son travail dans les démocraties, il doit être cet élément qui permet que les choses ne partent pas dans n'importe quelle direction. Vous l'avez entendu ? Toutes ces affaires, nous sommes en période politique, présidentielle. Si M. Fillon, on le voyait déjà président de la République, il se trouve qu'il y a un certain nombre de journalistes qui ont sorti des affaires sur ses costumes, sur ses enfants, etc., et qui font qu'aujourd'hui, il se retrouve, c'est nettement moins évident qu'il soit le prochain président. Donc, c'est pour ça que vraiment, oui, je partage complètement l'avis de votre professeur que les journalistes sont là un peu comme des garde-fous et qu'il faut garder cette profession et qu'elle soit consciente de sa responsabilité. Pendant un temps, on a vu, beaucoup de grands médias ont été achetés par des grands groupes industriels parce que c'est un moyen d'influencer un média. J'ai un journal qui n'est pas un grand groupe, mais je sais que nous influençons à l'endroit où nous sommes, sur les territoires où nous sommes. Donc c'est un moyen d'influence, et ces moyens d'influence doivent demeurer le plus possible indépendants pour pouvoir bien faire le job.
Donc c'est pour ça que parfois, quand on voit des reportages, ils disent qu'ils n'ont pas souhaité rencontrer les journalistes pour pas qu'on dévoile leurs problèmes, par exemple.
Exactement. Et dès que c'est comme ça, il faut se questionner. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, du fait, comme je disais tout à l'heure, du développement des sources d'information, l'auditeur et le téléspectateur, voire le lecteur, doit, quelque part, constamment se questionner. C'est-à-dire, ce que je lis, ce que j'entends, pourquoi on veut me faire comprendre ça ? Et grâce à Internet, on a la capacité d'avoir accès à beaucoup de sources d'informations qui viennent compléter ou infirmer. Par exemple, quand un interlocuteur vient me parler, il me dit « Madame Ozamon, y a telle chose qui est arrivée. » Je dis « Ok, j'écoute. » Mais la petite voix me dit derrière « Pourquoi il est en train de te dire ça ?» Et à partir de là, si le sujet m'intéresse, je me mets en enquête pour pouvoir vérifier ce qu'on me dit, pour pouvoir confirmer ou infirmer que là, effectivement, il y avait un problème. Vous avez peut-être entendu récemment qu'il y a eu une affaire qui est sortie. Alors, il y a un petit moment d'inattention. Il y a eu une affaire qui est sortie par rapport aux filières de viande en Martinique. Eh bien, pareil, j'ai entendu parler de ça il y a très longtemps, il y a peut-être 2, 3, 4 ans. J'ai eu des documents. Je me suis dit, waouh, si c'est ça, mais pourquoi ça ne sort pas 4, 5 ans déjà, quoi. Eh bien, c'est bien, après enquête, non seulement ça a confirmé les malversations, et ce n'est que maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup de pression, beaucoup de gens qui ne veulent pas que ça sorte, ce n'est que maintenant qu'il y aura une suite judiciaire. Si aucun journaliste ne s'était intéressé à ça, peut-être que ce serait passé sous le silence.
Eh ben.
C'est un vrai métier.
Et pour un petit lien à la réponse que vous nous donnez, quel est pour vous le meilleur endroit pour prendre toutes ces informations, pour ensuite les vérifier ?
Alors, moi je pars du principe que tout est information, tout est quelque part. Quand on est dans ce qu'on aime faire, moi je dis ça pour qu'on est venu parce que comme ça, on le fait avec plaisir, avec bonheur et avec joie et puis on n'a pas de mal de dos, on se lève le matin sans difficulté. Quand on est dans cet état-là, c'est-à-dire que tout devient information et capacité de confirmation d'affirmation. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, je suis avec vous. Vos questions me permettent de réfléchir à des choses, que j'aurais peut-être pas passé sous silence. Et chaque rencontre, c'est quelque chose. Donc effectivement, avoir l'information, elle arrive. Alors soit elle arrive lors de conférences de presse, soit elle arrive lors de conversations, ou soit elle arrive par communiqué, etc. Et après, en fonction de l'intérêt, par exemple, à Inter-Entreprise, on ne suit pas tout. On suit vraiment l'économie sur les trois territoires. Et une fois que ça arrive, que ça m'intéresse, je me mets en chasse. Et être en chasse, ça veut dire quoi ? Téléphoner à des gens, on sait que ce sont des personnes ressources, soit c'est dans l'administration, si je veux confirmer que telle loi est machin, quelles conséquences, etc. Soit c'est des entreprises, ou soit c'est des gens que je connais de par leur activité que je sais. Et au fur et à mesure, en collationnant les informations, quand je considère que j'ai assez de matière et que ma matière est certaine, là je sors l'information. Et c'est génial. Parce que c'est chaque fois, ça tombe dans le mille.
Il arrive parfois qu'on trouve plusieurs sources d'informations qui, sur un même sujet, ne disent pas la même chose. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Parce que des fois, on peut penser à mener sa propre enquête, mais des fois, on arrivera, pour mener son enquête, il nous faut des sources d'informations et il arrive qu'elles ne disent pas la même chose. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est le plus crédible ? Qu'est-ce qu'on devrait croire en premier ?
Quand je suis face à ce genre de situation, parce que ça nous arrive même à nous, hein, on reçoit des informations contradictoires. Par exemple, un expert nous dit « Oui, c'est inoffensif ce truc-là, le chlordécone. Hein, » On nous a dit ça pendant longtemps. « Oui, c'est inoffensif. » Et puis après, il y a des experts qui disent « Ben non, ça reste dans la terre pendant 30 ans, etc. » Et jusqu'à présent, il y a encore de la controverse. Moi, je me dis « Je me fais confiance. Et je fais confiance à mon instinct. » C'est-à-dire que je me dis, qui m'a dit que ce n'était pas nocif ? Et je remonte. Ah, tu as fait des interventions où tu as été expert pour tel laboratoire, etc., et ben de ce fait-là, ta parole devient moins crédible. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est, parce que ça arrive de plus en plus souvent, avec, comme je disais tout à l'heure, avec le développement des informations, à un moment, il faut développer sa confiance en sa compréhension des choses. Il y a toujours une compréhension logique des choses. Quand on veut vraiment vous faire croire que non, t'as pas bien compris, etc., généralement, il y a un loup. Parce que si 1 plus 1 égale 2, c'est pas démontré que ça fait 4 ou 5 ou 6, quoi. C'est que quelque part, on veut nous faire croire des choses qui ne sont pas exactes. Donc, il faut être patient. Moi, je sais que quand, par exemple, j'ai un sujet que je sens qui n'est pas mûr, c'est-à-dire que je considère que mon instinct me dit que je n'ai pas assez d'informations pour le sortir correctement. Eh bien, j'attends. Parce que je sais qu'à un moment, l'information que je cherche, et je dis, je m'en chasse, l'information que je cherche va m'arriver. Au détour d'une conversation, au détour d'une lecture, au détour de n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, je suis toujours en ouverture maximum par rapport à la compréhension, à ce que je veux faire, et je sais que ça m'arrive. Donc, confiance en soi. On a un cerveau qui est extraordinaire, qui a des capacités, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer. Eh bien, il faut s'en servir. Il y a des moments où on ne sait pas, eh bien, il faut reconnaître qu'on ne sait pas. C'est pour ça que moi, quand je ne sais pas, je n'écris pas. Quand on me demande de quoi vous pensez, je dis, écoutez, je ne sais pas. Par contre, quand je sais, alors là, il faut se mettre derrière pour pouvoir démonter ce que je dis. Et je crois que c'est une attitude tranquillement sereine et tranquillement... qui donne de la puissance et de la force à ce qu'on dit. Moi, je ne parle pas souvent, mais je sais que quand je parle, eh ben, je suis écoutée. Pas sur tous les sujets, mais les sujets dont je parle, je maîtrise assez. Et c'est ça qui est important.
Et selon vous, est-ce qu'il vaut mieux travailler en seul ou en équipe pour dénicher l'information ?
Tout existe. Il y a eu une expérience extrêmement intéressante que vous avez dû entendre... dont vous avez entendu parler, alors c'est pas Wikileaks, mais c'est quand il y a eu cet ensemble de journalistes, Panama Papers, qui ont sorti ensemble un ensemble de malversations qui se passaient par des sociétés offshore dans le canal du Panama, au Panama. Le Panama est réputé comme une place où on peut dissimuler beaucoup de choses, un paradis fiscal. Et donc, plusieurs journaux de par le monde ont sorti le même jour, au même moment, dans Le Monde, etc., Libération, des informations en dénonçant un certain nombre de gens au niveau mondial qui ont détourné des fonds. Et ça, ce travail-là est extraordinaire, n'aurait pas pu se faire seul. Et ce qui était intéressant dans cette première, parce que c'était la première fois que ça arrivait, c'est qu'ils ont pu travailler ensemble, mais de par le monde, je crois qu'il y avait plus d'une cinquantaine ou soixantaine de journaux, ils ont pu tenir leur langue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fuite, et chacun dans son pays a pu mener les enquêtes complémentaires qu'il fallait. Et donc, ils ont pu sortir et faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qui a quoi, et puis comment, et puis il y a des actions judiciaires qui sont enclenchées. Donc, oui, travailler en équipe, c'est important. Enfin, ça, et de plus en plus... avec les moyens de communication internet, etc., on peut trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt et qui ne sont pas forcément dans votre pays. Et travailler seul aussi, moi je sais que j'ai une équipe jusqu'à 6 personnes. Aujourd'hui je suis celle qui fait principalement les enquêtes et puis qui me déplace au Martinique et Guyane, parce que nous sommes dans une période de mutation de la presse qui, aussi bien radio, télé, etc., qui connaissent des difficultés. Et donc, au fur et à mesure, nous avons restructuré. Et aujourd'hui, avec les technologies, j'ai la capacité de faire autant qu'avec une équipe. Et si demain, je recommence à embaucher, ce seront des gens qui seront en capacité d'apporter une expertise par eux-mêmes complémentaire à celle que développe déjà le journal.
Et quand vous parlez de mutation de la presse, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben, en fait, depuis une petite dizaine d'années maintenant, la presse, aussi bien radio, télé que presse écrite, se retrouve devant le développement du digital. C'est-à-dire qu'au départ, les journaux, notamment papier, étaient faits avec le plomb, voire sur informatique, mais en tout cas... La dématérialisation, c'est-à-dire le fait de retrouver les journaux sur Internet, n'était pas très développée. Ce qui veut dire que on a eu une période où les journaux étaient beaucoup achetés. Et puis, il y a eu ce que moi j'ai appelé une bêtise qui a été faite il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'avec le développement d'Internet, qui n'avait pas encore trouvé la meilleure rémunération pour la presse, les grands journaux ont mis gratuitement leur information en ligne. C'est-à-dire que à la longue, vous n'aviez plus aucun intérêt d'acheter un journal papier, vu que vous retrouviez le même contenu sur Internet. Donc, d'où une baisse de revenus et une mutation profonde du modèle, ce qu'on appelle modèle économique. Donc, comment retrouver une rentabilité? Et c'est pour ça qu'on a vu de grands journaux fermés, Business Week, qui était un journal emblématique aux États-Unis, etc. Il y en a plusieurs d'autres qui ont fermé aussi en France. Et qui, du coup, tout le monde est en train de chercher quel est, par rapport aux nouvelles habitudes, compris les lecteurs, de lire de plus en plus en ligne, sur vos tablettes, sur vos smartphones, sur vos ordinateurs, et qui, pas se détourne, mais en tout cas consomme complètement différemment le papier. Donc, tous les gérants, enfin en tout cas les propriétaires de presse et de médias, parce que du coup tout le monde aujourd'hui est en concurrence avec tout le monde, alors qu'avant il y avait la radio, la télé, la presse papier. Aujourd'hui on retrouve la presse papier en vidéo sur Internet, on retrouve les radios qui se mettent à écrire des trucs qui font de la vidéo aussi, enfin voilà, la télévision qui sort aussi du papier, enfin voilà, donc tout le monde est un peu en train de chercher, et ce qui fait qu'effectivement pour l'instant ça a provoqué qu'il y a une grande diminution du nombre de journalistes, parce qu'en fait, il n'y a pas autant de travail. En fait, il y a toujours autant de travail, mais en tout cas, la rémunération du fait de la vente des journaux et des encarts publicitaires, etc., est nettement moins importante qu'avant, ce qui veut dire qu'il faut faire autant, sinon plus, avec moins de personnes.
D'accord, et je vous fais une question qui n'a pas tellement de rapport. Hein. Je voulais vous demander, selon vous, quel est le meilleur vecteur pour transmettre l'information? Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de pourquoi c'est important, quelle information on transmet, comment et tout, mais c'est quoi le meilleur vecteur?
C'est une combinaison de plusieurs choses. Aujourd'hui, tu as sans doute un portable. Oui. Oui, voilà, tu as un ordinateur à la maison, tu as peut-être, enfin voilà, mais tu as peut-être pas aujourd'hui, mais demain tu auras ça, c'est-à-dire c'est des produits qui aujourd'hui sont rentrés dans les mœurs. Donc il n'y a pas de meilleur vecteur, il y a comment le lecteur se sent par rapport à ce qu'il cherche et ce qu'il veut comprendre. Et après, il a plusieurs canaux. Je prends notre cas. On fait un magazine papier, on a un site internet où on donne de l'information sur une newsletter tous les matins et on a une lettre confidentielle. Et bien dans ces trois produits, nous ne mettons pas les mêmes informations. Quand l'information qu'on envoie tous les jours, par exemple sur notre site internet, c'est des choses de l'actu. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, la conférence de presse, etc. Ce qui est dans la lettre confidentielle, c'est tout petit, c'est des brèves. Mais c'est des brèves hyper précises sur des choses qu'on connaît voilà, très en amont et qui permettent après de faire du business. Exemple, on a été les premiers à sortir que le groupe OYON était en train de vendre ses hypermarchés en Guadeloupe à un groupe guadeloupéen. On a sorti ça il y a 15 jours. Eh bien, je peux te dire, mais c'était une brève, hein, c'était tout petit. L'information dans la journée a été achetée par plus de 30 personnes à 25 euros. Voilà. Et ce que ça a provoqué, c'est qu'un groupe local martiniquais a renchéri, et c'est lui qui achète les hypermarchés du groupe OYON en Guadeloupe. Donc ça, ce n'est absolument pas dans les journaux papier. C'est vraiment une information pour faire du business, quoi. Et cette information-là est achetée, est très précieuse parce que recherchée. Et dans le magazine papier, on fait plus d'enquêtes. Par exemple, là, je suis en train de faire une enquête où j'interviewe plus des grands groupes, des banquiers, etc., sur voilà, un sujet d'assurance. Voilà, je prends mon temps. Donc, c'est trois types d'informations différentes. Donc, en fonction de ce dont tu auras besoin, tu auras des canaux différents. Et moi, je crois que c'est un peu vers ça que les uns et les autres sont en train de tendre. Une information générale très facile d'accès par Internet, tous les jours. Une information très confidentielle, donc sur des produits très ciblés, qui là sont plus chers. Et une information un peu plus générale, enfin voilà, de dossiers qui méritent des choses plus approfondies à travers un magazine papier.
Et vous êtes chef d'entreprise, mais aussi journaliste. J'aimerais savoir, pour vous, est-ce que c'est facile de concilier les deux ?
Alors, oui et non. Alors, je suis chef d'entreprise et journaliste. Alors, et effectivement, je disais au départ que j'ai lancé ce magazine. Alors, j'ai été journaliste, donc rédactrice, pendant une vingtaine d'années en France, en métropolitaine, et j'ai décidé de rentrer aux Antilles. Et ma spécialité a toujours été l'économie, parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est ce que j'aime, rencontrer des hommes et des femmes qui me racontent leur histoire d'entreprise, etc. Et quand je suis revenue, imaginez, il y a 20 ans, il n'y avait rien, quoi. Il y avait France Antilles, point, RFO, et puis voilà. Et personne ne s'intéressait à l'économie parce qu'à l'époque, ça a évolué, Dieu merci, entre autres grâce à nous. L'entreprise était regardée uniquement comme quand il y avait des grèves ou quand il fallait chercher des t-shirts, des machins, enfin, pour faire de la promo. Mais jamais comme une entité capable d'amener de la valeur ajoutée dans un territoire. Donc, comme c'est ça que j'aime faire, j'ai été un peu contrainte de créer une entreprise parce que je ne trouvais pas de travail. C'était soit je restais là et que je chômais, ou bien je passais de CDD en CDD dans un grand journal local parce qu'on n'embauchait pas, ou bien je repartais. Et comme j'avais envie d'être là et que j'avais des capacités à faire, j'ai lancé mon entreprise. Et c'est vrai que au départ, c'était pas un choix, c'était plutôt une contrainte, mais qui est devenue un bonheur absolu. Parce que je me dis, ce que je suis arrivée à faire à travers cette activité de chef d'entreprise, je n'aurais jamais pu faire ça en étant salariée. Même dans une boîte genre start-up. Parce que je suis aux manettes, je décris la vision que je veux. Par exemple, aujourd'hui, je suis avec vous, mais toutes les semaines, le jeudi, je suis en Guadeloupe. Je fais des émissions avec le même matériel que vous, à la télé et à la radio. Et puis, une fois par mois, je suis en Guyane. Je me dis, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de presse qui donnent ce genre de capacité à leurs salariés de se déplacer autant que ça. Donc oui, au départ, difficile à concilier, mais... Non, au départ, difficile à concilier, mais oui, c'est super bien.
D'accord, bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre intervention d'aujourd'hui. Vous avez appris beaucoup de choses sur le métier de journaliste, mais aussi sur le métier de chef d'entreprise pour créer un journal et quel a été votre parcours. Donc,
Il y a juste une question qu'on n'a pas abordée et qui pourtant est essentielle, c'est le fait d'être femme et d'avoir fait un magazine économique. Ça, c'est un vrai sujet. Mais on reviendra.
On vous réinvitera. Voilà. Alors, merci à tous d'avoir suivi notre émission et à bientôt sur Radio Pulse Fort.